Chapitre 21. Holmes attendait que la maisonnette des Hayes s'endorme. Impatient, il fumait une pipe après l'autre dans sa chambre et entr'ouvrait par moments la porte pour écouter. Les murmures et les pas étouffés des domestiques continuèrent longtemps après que les Hayes et Henry James se furent retirés dans leurs chambres respectives. Enfin, ce fut le silence. Ouvrant grand sa fenêtre qui donnait sur l'arrière de la maison, au croisement de H Street et de la 16e rue, Holmes prit son lourd sac à dos contenant ses outils de monte en l'air, quitta subrepticement sa chambre et descendit l'escalier. Il était tout de noir vêtu, du pull sous la veste légère au pantalon d'ouvrier et jusqu'aux chaussures à semelles de crêpe qu'il s'était fait faire sur mesure par Charles F. Stead & Company, une tannerie du nord de l'Angleterre. Il traversa la cuisine sur la pointe des pieds, ouvrit la porte sans bruit, sortit et utilisa l'un de ses outils pour refermer à clé derrière lui. Le jardin de derrière des haies était séparé de celui des Adams par un haut mur de briques. Holmes lança une corde terminée par un petit crampon, tira dessus pour s'assurer qu'il était bien accroché, puis escalada le mur et se laissa tomber de l'autre côté en 10 secondes silencieuses. Le jardin de ce côté était minuscule, l'espace étant occupé par une écurie dessinée par le même architecte qui avait conçu les deux maisons. Une écurie vide cette nuit. Comme Henry James le lui avait expliqué, si Henry Hobson Richardson avait conçu et fait construire les deux maisons à peu près à la même époque, les deux projets étaient différents. Durant le thé qu'il avait pris avec Clara Hay cet après-midi-là, Holmes avait montré plus qu'un intérêt poli pour leur architecture, de sorte qu'en se dirigeant vers la maison de Henry Adams, il en avait le plan en tête. La demeure était presque entièrement plongée dans le noir, seule brûlaient encore quelques veilleuses à gaz. Les écuries formaient une haute masse noire derrière lui. Holmes avait noté que toutes les fenêtres du rez-de-chaussée de la maison étaient barrées par des grilles en fer forgé. La porte de la cuisine était le meilleur endroit pour entrer. Le plus simple serait de découper un cercle de verre dans une des vitres, mais cela laisserait une trace de l'effraction. Holmes étala un bout de tissu par terre devant cette porte et y posa un genou. Il pouvait forcer la serrure en moins d'une minute, mais pas les deux verrous intérieurs que les domestiques avaient pris soin de tourner avant de partir. Il lui faudrait donc démonter la serrure, passer un fil de fer rigide qu'il pourrait tordre selon ses besoins, tirer ses deux verrous, entrer puis remettre la serrure à sa place. L'opération prendrait presque une heure, mais puisqu'il ne comptait pas repartir par là, il n'aurait à le faire qu'une fois. Holmes leva les yeux vers les étoiles. Il n'était pas encore 1 heure du matin. Il avait le temps. Une fois à l'intérieur de la cuisine, il resta accroupi pendant plusieurs minutes dans le silence absolu, contrôlant sa respiration aux aguets. Il avait entendu John et Clara Hay mentionner que les employés d'Adams étaient en congé et ne reviendraient que pour préparer la maison avant le retour de leur employeur le vendredi. La maison semblait bel et bien vide. Il alluma une lanterne miniature, pas plus grande que sa paume, et referma les petits volets du haut et du bas afin qu'elle ne projette qu'un mince faisceau droit devant. En quelques minutes, il avait remonté tout le mécanisme de la serrure et de la poignée, refermé les verrous de la porte de derrière et s'engageait en silence dans l'étroit escalier de service. Bien que les deux hôtels particuliers aient été bâtis dans le style dit néo-roman, ils différaient par leurs proportions extérieures et l'impression qu'ils dégageaient à l'intérieur. La maison des Hayes s'ornait d'une multitude de tours, de tourelles, de pignons et d'énormes cheminées. Celle des Adams, où ne vivait désormais plus que le veuf et son personnel bien sûr, était plus sobre, d'aspect plus moderne, et ne se distinguait d'un point de vue architectural que par le double arc blanc de son entrée. Les deux possédaient 3 étages. Le bureau privé de Henry Adams était situé au premier, et Holmes le localisa sans tarder. La pièce d'à côté, également fermée à clé, avait été la chambre noire et l'atelier photographique de Clover Adams, avant d'être reconvertie, d'après Clara Hay, en salle d'archives, accueillant les photographies soigneusement classées de la défunte. La simple serrure résista moins d'une minute, et Holmes pénétra dans la pièce aveugle. Rallumant sa lampe miniature, il découvrit le meuble à tiroirs sur mesure où étaient rangés les tirages et plaques photographiques. Il avait compté sur la méticulosité et l'efficacité de Henry Adams et ne fut pas déçu. C'était lui qui avait inventorié et archivé la plupart des photographies prises par son épouse après la mort de cette dernière en décembre 1885. Holmes ne mit qu'une minute à trouver la clé du meuble d'archivage ainsi que le catalogue de l'inventaire, dactylographié pour une large part, même si quelques entrées étaient écrites de la main soignée de Henry Adams. Volume 7, page 8, numéro 50.23. R. Lorne, février 1884, légendé à la main par Clover. Rebecca Lorne, debout, en costume romain. Holmes trouva et sortit la photo, puis s'accroupit et dirigea sa lampe miniature dessus. La femme avait une pose étrange, son costume romain était rudimentaire et son visage détourné de trois quarts de l'objectif de l'appareil photo. Mais il ne faisait aucun doute que Rebecca Lorne était la femme que Sherlock Holmes avait connue sous le nom d'Irène Adler. Il remit le cliché à sa place. Volume 7, page 9, numéro 50.9. R. Lorne, sans date, légende de la main de Clover, Rebecca Lorne avec un banjo. Commentaire de la main de Clover, très bonne. Holmes orienta les trois faisceaux vers l'image. C'était en effet une très bonne photo d'Irène Adler, Rebecca Lorne. La femme était plus âgée que dans les souvenirs de Holmes, mais encore assez séduisante. Clover Adams l'avait fait poser dans l'angle d'une pièce près d'une fenêtre, en tenant son banjo comme si elle en jouait. Holmes avait déjà vu l'instrument. Le visage de Lorne Adler était tourné vers la fenêtre et légèrement penché en avant pour accrocher la douce lumière. Clover avait utilisé un objectif grand angle, le Dolmayer, devina Holmes, déjà sorti à l'époque, et réussit une image qui était à mi-chemin entre un portrait posé et un cliché pris sur le vif d'un instant de la vie quotidienne. Volume 7, page 10, numéro 50.10. RL, 8 février 1884. Légende de la main de Clover, Rebecca Lorne, debout en costume romain. Cette fois encore, le visage était aux trois quarts détourné. Holmes remit la photo en place. Volume 9, page 17, numéro 50.106. Old Sweet Springs, Virginie, juin 1885. Rebecca Lorne, son cousin Cliff Richards, sous la véranda de la maison. Holmes sortit sa petite loupe et étudia l'image. Rebecca Lorne regardait l'objectif, et seul le haut de son visage était caché par son chapeau à bride. Mais son cousin Clifton Richards baissait la tête, de sorte que le rebord de son chapeau dissimulait entièrement ses traits. Il semblait assez athlétique pour être Lucan Adler, mais Holmes ne pouvait en être sûr. Il remit la photographie dans son tiroir. Volume 9, page 21, numéro 50.108. Old Sweet, légende de la main de Henry Adams, vue de la maison avec des gens sous la véranda. Là aussi, une partie du visage de Rebecca Lorne était visible, mais l'adolescent, Clifton Richards d'après ses vêtements et son chapeau, avait détourné la tête. Holmes jura tout bas. Il ne restait qu'une photo dans cette série. Volume 9, page 23, numéro 50.109, Old Sweet Springs, juin 1885, Rebecca Lorne et son cousin, légendé par Henry Adams, debout dans un pré avec la maison en arrière-plan. Clover avait apparemment pris cette photo sans prévenir ses sujets. Les deux silhouettes se tenaient dans l'herbe haute, qui leur arrivait presque jusqu'à la taille. La tête et les épaules de Rebecca Lorne étaient floues, puisqu'elle tournait la tête pour entendre ce que disait le garçon qui se trouvait à son côté et légèrement derrière elle. Le visage du garçon, inconscient du fait que Clover prenait la photo, était parfaitement net. C'était la meilleure image de Lucan Adler jamais saisie en photo. Le cœur de Holmes battait la chamade. La pochette d'archivage contenait deux tirages identiques. Holmes en prit un, vérifia qu'il était aussi bon que le premier et le rangea dans sa poche intérieure au-dessus de son cœur. Il remit la deuxième photo à sa place et referma le long tiroir. Il quittait la pièce quand il entendit des voix au rez-de-chaussée.
« Me faire sortir du lit au milieu de la nuit !» dit un homme d'une voix pleine de colère.
« Il n'y peut rien si le temps a changé sur l'Atlantique !»
répondit une autre voix plus âgée.
« De retour avec deux jours d'avance et sans prévenir !»
râla un troisième homme plus jeune.
« Je dois changer les draps dans la chambre de monsieur, aérer toute la maison, vérifier les serviettes de toilette !»
dit une femme à une autre qui ne cessait de l'interrompre pour se plaindre.
« Le câble ne précisait pas l'heure d'arrivée de Monsieur Adams, » reprit la voix de l'homme le plus âgé.
« Préparons tout ce soir et que tout le monde soit de retour ici pour l'inspection demain matin à 7h. J'ai demandé à Martin de prévenir le reste du personnel. »
« Bon sang !» marmonna Holmes, mais sans prononcer les mots. Il éteignit sa minuscule lanterne et se dirigea sur la pointe des pieds vers l'escalier de service. Les domestiques, très certainement le majordome et deux valets de pied, la gouvernante et au moins deux de ses subalternes, montaient l'escalier principal. Henry Adams rentrait donc plusieurs jours avant la date prévue et son personnel diligent faisait en sorte que tout soit prêt pour son arrivée le lendemain matin. Bon sang, songea Holmes une fois encore, s'engageant dans l'étroit escalier de service pour monter au deuxième étage. Les marches de bois craquèrent sous son poids.
« Vous avez entendu ?»
s'exclama l'un des valets de pied.
Si c'est un cambrioleur, il va avoir une mauvaise surprise,
répondit le majordome.
Dois-je aller prévenir la police ?
Demanda la gouvernante.
Non,
répondit le majordome.
William, Charles, allez chercher 3 tisonniers. William, vous viendrez avec moi. Nous allons inspecter les pièces du fond et l'escalier de service.
La plus grande partie du 3e étage accueillait les chambres des domestiques. Holmes dut tâtonner dans le noir pour trouver le dernier escalier, une échelle plutôt, tant il était raide. Il entendait les hommes s'interpeller en dessous à mesure qu'ils inspectaient les pièces du 2e étage. La porte du grenier était fermée à clé, et il perdit plusieurs précieuses minutes dans une obscurité quasi totale à forcer la serrure avec ses fils de fer et ses outils. Il entra dans le grenier à l'odeur de renfermé. Les domestiques avaient vérifié toutes les pièces du 2e et convergeaient vers le 3e. Holmes dut prendre le risque d'allumer sa lanterne pour éclairer le grenier où s'entassaient de vieilles malles, un mannequin de couturier qui se dressa devant lui tel un cadavre sans tête, encore d'autres valises et une cage à oiseaux vide. Il s'éloigna de la porte sur la pointe des pieds tandis que les voix en dessous devenaient de plus en plus distinctes. Balayant le plafond mansardé avec sa lanterne, il trouva l'inévitable trappe menant au toit. Par chance, elle était juste sous deux malles dont il se servit comme de marche. Il poussa de toutes ses forces pour ouvrir la trappe en espérant que le léger grincement qu'elle émit en tournant sur ses gonds serait étouffé par les bruits de pas en dessous. Holmes se retrouva dehors sur le toit pentu et glissant, du côté du jardin de derrière et des écuries. Remerciant silencieusement H.H. Richardson pour la qualité de la construction, les lattes du parquet en bois massif qui avaient absorbé le son de ses semelles de crêpes, la triple épaisseur de ce toit aux tuiles solides, Holmes fila vers les cheminées et pignons plus hauts de la maison de John Hay. De H Street et du devant de la demeure d'Adams, les deux hôtels particuliers de briques semblaient contigus, mais en réalité, Richardson avait séparé le mur est de la maison d'Adams du mur ouest de celle des Hay par un espace d'environ 50 cm. Holmes s'apprêta à sauter par-dessus ce vide, un étroit abîme noir profond de 15 mètres, en sachant que le toit des Hay était légèrement plus haut que celui d'Adams, d'où il allait s'élancer. Entendant du bruit près de la trappe derrière lui, il fit taire son imagination et sauta. De l'autre côté, il se sentit glisser le long de la paroi raide et inclinée et n'arrêta sa glissade qu'en écartant les bras et les jambes, utilisant l'adhérence de ses pieds, de ses doigts et de son corps contre les tuiles. Des hommes émergeaient de la trappe dans le toit d'Adams. Holmes se décala de 60 cm vers la droite pour que l'imposante cheminée principale à 10 souches de la maison d'Adams le cache à la vue des domestiques, tandis qu'il escaladait la surface pentue du pignon nord-sud de la maison des Hay. Il roula de l'autre côté de la ligne de fête de ce gable et se baissa juste au moment où le majordome et les deux valets atteignaient l'extrémité est du toit d'Adams et dirigeaient le faisceau de leur lanterne le long de la pente ouest des pignons des Hay. Une partie de la haute façade triangulaire donnant sur H Street, Lafayette Square et la résidence présidentielle dissimulait Holmes à la vue de quiconque se serait trouvé dehors à cette heure de la nuit. Quand les domestiques d'Adams se furent convaincus qu'il n'y avait aucun cambrioleur sur le toit, ils rebroussèrent chemin avec précaution, se tenant même la main à un endroit, et redescendirent par la trappe. Avançant de nouveau sur la pointe des pieds, ne cédant qu'occasionnellement de ses doigts sur le toit très raide, Holmes monta jusqu'à la ligne faîtière, puis la suivit vers le nord jusqu'au pignon le plus haut de la maison des Hay, qui culminait à plus de 20 mètres de la chaussée. Contrairement à la demeure d'Adams disposant de 2 cheminées massives à l'est et à l'ouest, celle des Hay en avait 6 petites en briques à différentes hauteurs. Holmes se laissa glisser le long de la paroi supérieure du toit jusqu'à ce que ses semelles de crêpes se plantent contre l'une de ses hautes et minces cheminées à un tiers de distance du sommet nord-ouest. Il se reposa là une minute, haletant doucement, et écouta le clip-clop d'une voiture à cheval passant dans la 16e rue. Quelqu'un faisait rentrer des chevaux dans les écuries d'Adams. Holmes ignorait où ils avaient été gardés pendant les semaines d'absence de leur propriétaire, mais voilà que des palefreniers ou garçons d'écurie les ramenaient dans leur stall à 2 heures du matin. Plusieurs lanternes et au moins une lumière électrique éclairaient la cour des écuries, le jardin et toute la partie du toit à l'ouest de la cheminée derrière laquelle il était caché. Il consulta sa montre et soupira doucement. Ce n'était pas là le premier ni même le 2e plan qu'il avait élaboré en vue de sortir de la maison des Adams et de retourner dans sa chambre, mais au moins avait-il prévu un plan C. Pendant que les palefreniers installaient les chevaux en faisant le moins de bruit possible, Holmes sortit 2 rouleaux de cordes de son sac à dos. Ce serait gênant s'il avait mal estimé la longueur de corde nécessaire, gênant et de cette hauteur probablement fatale. Enfin,
Les chevaux d'Adams furent de retour dans leur stall et les lanternes éteintes. Même le scintillement en provenance de la cuisine d'Adams avait disparu alors que le majordome, la gouvernante et les autres employés de maison s'étaient sûrement retirés dans leur chambre. Holmes alluma sa lanterne le temps de consulter sa montre. Presque 4 heures du matin. Les domestiques des Hayes se lèveraient bientôt pour leur interminable journée de travail. Holmes tapota la photo en sécurité sur son cœur, rangea la lanterne, s'assura que son sac était bien fermé et sa lanière bien fixée sur son épaule. L'un des rouleaux de corde était long et lourd, l'autre plus court. Des années plus tôt, il avait appris les rudiments du rappel dans les Alpes. Il fixa la corde courte autour de la souche de cheminée et accrocha la deuxième à la première grâce à des doubles nœuds de pêcheur. Passant la double corde entre ses jambes, sous la fesse droite puis sur l'épaule gauche, il la récupéra dans sa main droite pour une descente en rappel que son premier guide alpin avait nommé Dulfersitz. Ce matin-là, la veille s'aperçut-il, puis de nouveau l'après-midi, il avait marché jusqu'au fond du jardin des haies, officiellement pour fumer sa pipe et réfléchir, mais en réalité pour observer la mince cheminée située directement au-dessus de sa chambre au premier étage. À présent, il devait se fier à ses estimations, tout en espérant qu'aucun domestique, se promenant dans les couloirs après minuit, n'ait senti un courant d'air et pris la liberté d'entrer dans sa chambre pour refermer la fenêtre qu'il avait laissée ouverte à dessein. Un jour, un couvreur découvrirait la corde nouée à la cheminée, mais c'était le cadet des soucis de Holmes cette nuit-là. Se penchant en arrière, presque à l'horizontale, laissant la corde de rappel glisser dans sa main gauche alors que l'autre était enroulée à son poignet droit, il descendit le long de la façade latérale de la maison de briques de John Hay et franchit d'un bond la fenêtre sombre du deuxième étage qui, il s'en était assuré plus tôt, était une ancienne chambre de domestique utilisée comme débarras. Enfin, il atteignit la fenêtre du premier et se propulsa à l'intérieur de sa chambre. En prenant garde à passer bien au-dessus du châssis, il ne voulait pas avoir à expliquer comment la fenêtre de sa propre chambre aurait pu se casser au cours de la nuit. Après avoir posé la photo d'Irène et de Lucas Nadler sur sa table de chevet, il retourna à la fenêtre et tira sur la longue corde de rappel pour la décrocher. Puis il l'enroula avec précaution et la rangea dans son sac de cambrioleur. La corde plus courte ayant servi d'ancrage resterait là-haut. L'air nocturne était frais, et il laissa la fenêtre ouverte jusqu'à ce que la pellicule de sueur qui avait sécrété au cours de l'exercice ait séché. Puis il retira ses vêtements noirs qu'il plia soigneusement et rangea, fit sa toilette au lavabo, se mit en pyjama et régla sa montre pour qu'elle le réveille à 9 heures du matin. Henry James et lui prendraient le train de 10h42 pour New York. Holmes avait laissé sa lanterne miniature sur la table de nuit, et avant de s'endormir, il l'alluma et dirigea une dernière fois son faisceau étroit sur la photo légendée ainsi par Henry Adams. Old Sweet Springs, juin 1885, Rebecca Lorne et son cousin. Debout dans un pré avec la maison en arrière-plan. Dévisageant intensément le garçon, Holmes songea « Pourquoi as-tu tué ta mère ?»